Donc, je vais commencer par me présenter. Mais je vous salue. Mon nom, c'est Léa Drainville. Je suis étudiante au Cégep de Saint-Jérôme en sciences humaines. Donc, ça, c'est pour notre cours là, de fin de DEC. Puis, je suis en présence de Jeff Noakes, un historien du Musée de la guerre d'Ottawa. Donc, vous êtes spécialisé en Seconde Guerre mondiale.
Ah, oui.
Parfait. Donc, ça va être ça le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'ai préparé là, quelques questions. Ça devrait durer une vingtaine de minutes. Donc, vous pouvez prendre le temps que vous souhaitez pour répondre à chaque question. C'est sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. On aborde plusieurs aspects. Donc, j'ai commencé avec une question là, assez vague là, pour mettre un peu le thème. Donc, on sait que le Canada était indépendant du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment expliqueriez-vous les raisons qui ont poussé le Canada à tout de même participer au conflit?
Alors, c'est une bonne question. Alors, il y en a plusieurs raisons. En particulier, et ça dépend de quelle partie du Canada dont on parle. Alors, pour le Canada anglais en particulier, il y avait des liens sentimentaux avec le Royaume-Uni, mais aussi dans plusieurs cas, et très souvent, on voit qu'il y avait des liens assez directs familiales. C'était pas nécessairement le cas comme dans la Première Guerre mondiale où beaucoup de soldats canadiens ont été nés au Royaume-Uni, mais il y en avait bien beaucoup de Canadiens qui faisaient partie des forces armées durant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient des relations assez proches au Royaume-Uni. Alors, dans ce sens-là, il y avait des liens familiaux, des liens historiques. On avait peut-être même allé déjà en visite parfois avec ces relations. Il y a aussi l'idée idéologique que le Canada faisait partie, soi-disant, de l'Empire britannique ou du Commonwealth. Ça dépend du contexte et de qui se parle, mais l'idée que ça faisait partie d'une alliance, d'un regroupement, non simplement des pays comme le Canada, Nouvelle-Zélande, l'Australie, mais aussi des colonies qui se trouvaient tout autour du monde. Et il faut s'en souvenir que l'Empire britannique était immense, hein, et que ça consistait des colonies un peu partout dans le monde, que le Canada et l'Australie et les autres pays étaient plus indépendants, mais il y avait des autres qui étaient strictement des colonies. Mais il y avait du monde qui se sentait comme partie de cette grande édifice colonial. Et il y avait aussi des gens qui le voyaient comme une forme de patriotisme. Alors, les questions des identités. Et que comme on dit parfois en anglais, les identités ne sont pas des chapeaux. Alors, on peut bien en porter plus qu'une à la fois. Alors, ça serait étrange aujourd'hui de dire, bien sûr que je suis Canadien, mais je suis aussi Britannique. Mais c'était un peu moins étrange à ce point-là. Alors, les gens avaient des liens. Et parfois, c'était pas strictement britannique, mais on se voyait peut-être comme canadien, mais aussi comme écossais, comme exemple.
OK. Donc, il y avait un sentiment d'appartenance envers oui. Le Royaume-Uni.
Oui, okay. Un sentiment d'appartenance, mais aussi des sentiments qui avaient leurs origines durant la Première Guerre mondiale. Alors, l'idée que le Canada s'est battu comme un pays qui a gagné en partie un type d'indépendance comme conséquence de la guerre, et qu'il y avait des responsabilités pas nécessairement de maintenir la paix, mais de défendre des idées de la démocratie, selon la manière dont on le comprenait à ce point-là. C'était pas nécessairement nos idées modernes de la démocratie, mais l'idée de la démocratie et de la liberté. Alors, il y avait des raisons idéologiques aussi.
Et pour le Canada français, c'était quoi les raisons?
Pour le Canada français, ça dépend parce que, comme avec le Canada anglais, ce sont des millions de personnes, alors tout avec leur perspective comme individu. Il y avait certainement des personnes qui craignaient une autre grande guerre et alors il y avait peut-être un soutien pour les activités pour la défense domestique, mais pas nécessairement les combats outre-mer. C'est une des grandes lignes de fracture qu'on voit durant la Seconde Guerre mondiale. C'est la question de c'est quoi le but de la participation du Canada. Mais il y avait aussi des Canadiens français qui se voyaient comme partie d'une plus grande édifice politique ou idéologique, dans la même manière qu'il y avait des Canadiens anglais qui ne voulaient nulle part de ces événements. Alors, on caractérise assez souvent dans une manière, pas nécessairement stéréotypique, mais c'est peut-être un peu plus, on utilise des catégories qui sont un peu trop faciles pour décrire les populations et les réponses des Canadiens et des Canadiennes.
Puis, parlant encore des Canadiens français, on sait qu'il y a eu un gros débat là, autour de la conscription durant la Seconde Guerre mondiale. Pouvez-vous un peu m'expliquer c'était quoi l'enjeu de ce débat-là, puis les conséquences que ça a pu avoir là, par la suite sur la société québécoise?
Alors oui, c'est une bonne question. Il faut s'en souvenir que la question du conscription durant la Seconde Guerre mondiale a ses origines dans la Première Guerre mondiale. Alors la grande crise à propos de la conscription qu'on voit en 1917-1918 est un événement qui demeure dans les mémoires de beaucoup de Canadiens durant la Seconde Guerre mondiale. Presque n'importe qui a survécu la Première Guerre mondiale s'en souvient non seulement du gros débat qu'on voit en 1917-1918, mais avec bien sûr les implications durant les années qui suivaient. Et on le voit aussi avec des politiciens. Il faut s'en souvenir que Mackenzie King, qui est le premier ministre du Canada durant toute la Seconde Guerre mondiale, avait aussi été politicien durant la Première Guerre mondiale. Et il a vu les conséquences pour le Parti libéral, bien sûr, mais pour le Canada aussi. Et lui, il voulait éviter une autre crise à propos de la conscription. Alors, en 1939, même avant le commencement de la guerre, parce qu'on voit que la situation en Europe commence à détériorer, on voit que les libéraux, les conservateurs, bien sûr, ont fait une annonce qu'ils rejetaient la conscription pour service outre-mer. Et c'est une grande qualification qu'on voit là, l'idée de service outre-mer contre le service pour la défense domestique. Et alors, après que le Canada entre dans la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, le gouvernement fédéral renouvelle cette promesse de ne pas avoir de conscription pour le service outre-mer. Alors, en 1940, il y a des grands développements en Europe. Alors, l'Allemagne, dans une série d'opérations militaires, bien sûr, attaque les Pays-Bas, la Belgique, la France, la Norvège. Et par conséquent, les autres régions se trouvent occupées. Et le Canada se trouve soudainement dans une situation beaucoup plus grave qu'il y avait en septembre 1939. Et alors, le Canada, par conséquent, adopte cette loi sur la mobilisation des ressources nationales. Et ça comprend les gens. Alors, on pense de ressources nationales, on pense, bien sûr, ce soit des ressources minières et forestières, mais c'est aussi des personnes. Et alors, ça permet l'inscription des individus pour la défense intérieure et pour l'entraînement pour la défense intérieure. Alors, l'idée qu'on peut obliger les gens, on peut obliger les hommes de faire partie de l'armée et de faire de l'entraînement et puis de servir dans quelque manière pour la défense du pays. Il faut s'en souvenir qu'à ce point-là, aussi le maire de Montréal, qui est à ce point-là le plus grand ville au Canada, Camillien Wood, s'oppose à ces mesures. Il dit de ne pas s'enregistrer pour ce service et on interne durant 4 ans. Alors, c'est un sujet assez controversé dont les gens ont des sentiments très, très forts. Mais ce qu'on voit même après 1940 est que les pressions pour la conscription pour le service outre-mer continuent à accroître. Et c'est une division politique qu'on voit en particulier le Parti conservateur, qui se voit lié plus directement au Royaume-Uni, bien demande toujours pour la conscription pour le service outre-mer. Et par conséquent, on trouve qu'il y a un référendum en 1942 pour demander au public canadien de libérer le gouvernement de ses promesses à propos de la conscription pour le service outre-mer. Et les résultats sont fort intéressants. On trouve que approximativement 73% des résidents du Québec votent non, de ne pas libérer le gouvernement de ses promesses, mais environ 80% des résidents hors du Québec votent oui. Alors, on voit qu'il y a cette grosse division, mais il faut aussi s'en souvenir que dans ces grosses divisions, on trouve aussi des plus petites sous-divisions. Et on voit qu'il y a des différences entre les villes et entre les paysages et dans la campagne. Alors, il y a des différences. Ce n'est pas strictement complètement uniforme dans cette manière-là. Mais du monde voit ces gros chiffres et on dit, eh bien, il y a une différence d'opinion. C'est une longue histoire, alors je continue. Parce qu'on utilise la conscription pour la défense intérieure. On change aussi la définition de la défense intérieure. Alors, on le change pour qu'on peut envoyer des conscrits au Terre-Neuve, parce que Terre-Neuve ne fait pas encore partie du Canada, mais on les renvoie là. Et puis un peu plus tard, on les change encore pour qu'on puisse les envoyer à Alaska, parce qu'il y avait une campagne contre les forces japonaises dans les îles Aléoutiennes qui se déroule en 1942-1943, et les Canadiens prenaient part à côté des Américains. Et alors, on a envoyé des conscrits pour servir en Alaska, même si strictement, ça ne faisait pas partie du Canada, mais on le considérait pour ses buts comme la défense intérieure. Et la situation continue à se dérouler. Alors, ce qui arrive en été de 1944, alors après les débarquements en Normandie, on trouve qu'il y a des très lourdes pertes dans l'armée canadienne et ça accompagne aussi les pertes qui se déroulaient depuis 1943 à cause de la campagne en Italie. Et il y a ce qu'on appelle une crise de renfort. Alors, c'est la question, on n'a pas assez de soldats pour les bataillons, pour les régiments, hein, pour se battre contre les Allemands. Et ça devient de plus en plus sérieux. Et on trouve qu'il y a un dernier effort pour trouver des volontaires pour se battre outre-mer. Et on ne trouve pas assez de personnes. Ça provoque une crise dans le cabinet fédéral et un remplacement du ministère de la Défense nationale. Et finalement, on fait la décision en novembre 1944 de renvoyer des renforts qui sont des conscrits outre-mer. Et alors, on envoie avant la fin de la guerre contre l'Allemagne en mai 1945, à peu près 12 000 Canadiens sont envoyés, qui sont des conscrits, sont envoyés outre-mer. Et à peu près 2500 parmi eux se trouvent dans les lignes de feu avant que le fin des opérations militaires en Europe. Alors, c'est une histoire très complexe. Ça se déroule avec les petits pas, pas avec une grande changement. Le gouvernement fédéral avait comme but d'éviter une autre crise de conscription. On a évité les grands types de crises qu'on voit en 1917-1918, mais on voit que ça crée encore des divisions dans le pays et des ressentiments contre la conscription aussi. On voit qu'il y a du monde qui, bien sûr, qui essaie d'éviter le service militaire. En Canada anglais ainsi qu'en Canada français, ce n'est pas une division qu'on voit comme ça. On écoute assez souvent des histoires, dans mon cas de famille qui se trouvait au sud d'Ontario, qu'il y avait des hommes qui essayaient d'éviter le service militaire dans plusieurs façons. On entend parler au Québec, il y avait un régiment, il y avait les fusiliers du Saint-Laurent qui faisaient partie de la défense intérieure, mais on parlait aussi des fusiliers des Laurentides, qui est un nom qu'on utilisait pour ceux qui voulaient éviter un service militaire en s'enfuyant dans les Laurentides. Comme exemple. Alors, et on voit que même quand les gens faisaient partie de la militaire, qu'ils étaient conscrits, que parfois ils s'enfuyaient pour éviter le service militaire. Alors, il y a une résistance pour plusieurs raisons. Mais on voit que c'est une question assez complexe. Mais on évite des grosses crises, mais il y a des divisions et des sentiments qui demeurent même après 1945.
Donc, on voit que c'est vraiment pas un événement, mais plutôt une crise là, qui se prolonge sur plusieurs
absolument. Années. Une crise à petits pas. En 1939, si on avait dit, bien sûr, on va renvoyer des Canadiens, des conscrits outre-mer pour se battre contre l'Allemagne, on dirait non, ça ne peut pas se dérouler. Mais par fin de 1944, c'est quelque chose qui se déroule.
Ouais. Puis vous avez parlé du débarquement de Normandie. Si je peux vous poser une dernière question par rapport à ce conflit-là. Oui, exactement. Notre contribution à nous au Canada dans ce combat-là, puis on dit beaucoup que ça a été un tournant dans le dénouement de la guerre. Pouvez-vous m'expliquer un peu en quoi ça a changé ou impacté le dénouement?
Absolument. Alors, les débarquements en Normandie en juin 1944 sont un des points tournants de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut s'en souvenir qu'en 1940, l'Allemagne, au plein milieu de 1940, l'Allemagne contrôle toute l'Europe, sauf des pays neutres comme la Suisse ou comme l'Espagne ou le Portugal. Et le but des alliés dans l'Ouest, alors le Royaume-Uni et ses alliés, et puis après le décembre 1941, y inclut les États-Unis, c'est la question de comment retourner en Europe pour libérer l'Europe et aussi pour attaquer non seulement l'Allemagne, mais aussi l'Italie qui faisait partie de la guerre sur la côte de l'Axe. Alors l'Allemagne et le Japon, l'Italie et des autres pays qui étaient liés à l'Allemagne. La grande question, c'est quand est-ce qu'on va retourner en Europe avec des forces terrestres et comment? On commence, et c'est un grand débat parmi les alliés. Avec les alliés dans l'Est, l'Union soviétique, bien sûr, entre dans la Seconde Guerre mondiale en juin 1941, après que l'Allemagne l'attaque. Mais dans l'Ouest, c'est comment est-ce qu'on va retourner? Et alors, on commence après des débats avec des débarquements en Sicile, en été 1943, en juillet 1943, où les Canadiens faisaient partie, et puis après ça, la campagne qui déroulait en Italie, dès septembre 1943, où les Canadiens faisaient aussi partie. Mais il fallait décider après ça où retourner en Europe du Nord-Ouest. Et on a décidé de choisir la Normandie, ça se trouve à travers la Manche de l'Angleterre. Ça se trouvait assez proche qu'on pourrait donner du soutien d'appui aérien et naval assez facilement pour que le débarquement fût un succès. Et alors, les Canadiens à côté des Britanniques et des Américains et des autres forces alliées, faisait partie de ces gros débarquements qui ont pris place le 6 juin 1944. Alors, il y avait quelques 150 000 soldats qui faisaient partie de ces débarquements, hein, la plupart dans des péniches et des bateaux de débarquement sur les plages, mais il y avait aussi des forces aéroportées, alors des parachutistes ou des troupes qui descendaient en plein air. Il y avait une division d'infanterie canadienne, la 3e division, qui a débarqué sur la plage Juno. Alors, il y avait 5 plages de débarquement. Et la plage Juno est celui qu'on pense, on décrit assez souvent comme la plage canadienne. Même s'il y avait aussi des forces britanniques et des autres qui étaient là, la plus grande partie des forces qui se débarquaient sur la plage Juno le 6 juin étaient des Canadiens. Et alors, il y avait environ 15 000 Canadiens qui faisaient partie de toutes ces forces-là. Et alors, ils font partie de ces débarquements et ont le soutien de la marine royale canadienne. Et alors, avec plus de 100 navires de guerre, 10 000 marins canadiens qui faisaient aussi partie de ces événements. Et aussi, l'aviation royale du Canada avec 39, plus ou moins, escadrons d'avions, soit des chasseurs, soit des bombardiers lourds, des avions comme ça. Et alors, c'est le premier jour de la débarquement qui se poursuivit jusqu'à plus ou moins la fin d'août 1944. Et alors, l'idée est d'attaquer les forces allemandes qui se trouvent par là et puis de s'enfoncer dans le paysage de la France, de la Normandie. Pour les Canadiens, ce sont une série de combats autour de la ville de Caen, qui est un centre assez important de transport, et puis de s'enfoncer plus au sud contre les forces allemandes, avec les Britanniques sur le côté gauche des Canadiens et les Américains sur le côté droite, plus ou moins. Si on se voit enfoncé dans le paysage, ce sont des Américains à ce côté-là, les Britanniques à ce côté-là. Et c'est une grande série de batailles contre les défenses allemandes qui se déroulent durant ces mois-là, qui terminent par l'encerclement des forces allemand, dans ce qu'on appelle la poche de falaise, alors où on trouve un grand numéro, des dizaines de milliers des Allemands qui se trouvent pris entre les forces alliées, y compris les forces polonaises, les forces françaises libres et des autres à côté des Canadiens, des Américains, des Britanniques. Et ça termine les combats en Normandie. On prend des dizaines de milliers de prisonniers allemands. Il y a bien sûr, il y a des autres qui s'échappent, mais ça marque le fin de la bataille de Normandie. Et ça établit une base d'opération après laquelle on continue des opérations contre les Allemands dans des différentes directions. Pour les Canadiens, parce que les Canadiens se trouvent dans un certain endroit fin d'août 1944 pour eux, ils continuent en poursuivant les Allemands le long de la côte de la Manche jusqu'envers la Belgique. Les Britanniques rentrent dans des autres directions et les Américains dans des autres aussi. Alors, ça marque un point tournant parce que l'Allemagne se trouve maintenant avec des grosses offensives militaires terrestres sur les deux côtés, non seulement en l'Est contre l'Union soviétique, mais dans l'Ouest maintenant contre les autres forces alliées et aussi en Italie. Et alors, ça devient un autre point d'appui sur l'Allemagne, que l'Allemagne n'est pas capable d'arrêter l'avancement de toutes ses forces. Et ça libère, bien sûr, des millions de personnes de l'oppression nazie progressivement dès juin 1944. Et ça marque le commencement de la fin de la Seconde Guerre en Europe, parce que ça garantit effectivement la défaite de l'Allemagne.
Oui, donc ça ouvre un nouveau front, puis ça permet aux troupes, dans le fond, d'avancer.
Absolument. Ouais. Et ça complique aussi beaucoup la situation pour l'Allemagne, parce qu'il y a maintenant 3 fronts où il faut se battre, et il faut diviser les forces entre ces 3 fronts, et ça complique la situation, même plus critiquement pour l'Allemagne.
OK. Ben, ça répond à toutes les questions que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir donné de votre temps. Ce fut très pertinent. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée.
Merci bien. Bonne journée.
Bonne journée.